L'immobilier, partie prenante de la mobilité renouvelée, une table ronde au service du développement de territoires plus responsables et plus désirables sur Radio Immo et Radio Territoria.
Le groupe prospectif du plan bâtiment durable, réflexion bâtiment responsable et territoire, lance une nouvelle réflexion et dans le cadre du thème l'immobilier partie prenante de la mobilité renouvelée, il s'interroge cette fois sur le rapport, le nouveau rapport au temps et à l'espace. Vous allez comprendre ce qu'on peut mettre derrière cette équation avec nos invités et je commence par Jean-Christophe Vizier, il est coprésident de ce groupe de travail. Jean-Christophe Vizier, bonjour. Merci d'être notre invité. Également en plateau, Sonia Lavadino, elle est chercheuse à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Sonia Lavadino, bonjour.
Bonjour.
Et passé également par notre studio de Web Radio, Jean Coldéfi, directeur du programme Mobilité 3.0 à ATEC ITS France. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Et bienvenue également à Sabine Desnaud, directrice exécutive R&D Innovation et RSE chez Gessina. Bienvenue à vous.
Bonjour.
Alors Jean-Christophe Vizier, c'est vrai que lorsqu'on prend les transports, que l'on parle de métro, d'avion ou de train ou de quoi que ce soit, et que ce soit hors dehors de la ville ou dans la ville, il y a une exigence de temps qui n'a cessé d'augmenter. Et alors que de plus en plus dans la ville moderne, on réfléchit à cette coexistence, à cette compatibilité entre le temps et l'espace, quelles sont les réflexions du moment au sein de votre groupe de travail ?
Merci de nous accueillir. Le groupe RBR, c'est donc ce groupe prospectif. Et l'enjeu du groupe RBR, c'est d'aider à faire bouger des lignes. On l'a fait par exemple sur les bâtiments bas carbone, où on a quelques années, on a sorti une note sur le sujet qui a entraîné pas mal de changements. Et on a constaté qu'on avait un sujet sur l'immobilier et la mobilité. L'immobilier et la mobilité, c'est extrêmement important pour nos modes de vie. C'est là qu'on passe le plus clair de notre temps, que ce soit dans les bâtiments ou dans les transports. C'est plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, c'est un impact économique important sur les gens. Et on s'est rendu compte que les réflexions sur l'immobilier et sur la mobilité étaient traitées dans des cercles différents. Et que s'il y avait probablement un moment où on doit profondément se renouveler sur ces deux sujets, notamment du fait des envies, du changement climatique, il y avait peut-être des voies nouvelles à trouver en faisant échanger les acteurs du mobilier et de la mobilité. Et on s'est dit, ouvrons le débat en posant sur la table une note là-dessus, sur ce thème. Et on a donc lancé plusieurs débats sur le thème. Et le sujet qui nous apparaît important aujourd'hui, c'est finalement comment un nouveau rapport au temps et à l'espace pourrait être facilité par une vision croisée du bâtiment et de l'immobilier. Pas les regarder que d'un seul endroit, mais finalement regarder les deux et voir comment ça peut faire bouger le bâtiment et l'immobilier.
Sabine Desnaud, vous êtes une spécialiste de l'immobilier, Gessina est une grande foncière, mais également de l'automobile. En passant, je rappelle que vous avez débuté votre carrière chez Renault. Comment considérez-vous la voiture ? Et puis ensuite, on va parler de son implantation au sein de la ville, au travers de la ville.
Oui, pour moi, le sujet, c'est pas tant la voiture que l'adaptation de l'immobilier à toute une palette de nouveaux services aujourd'hui sur le territoire. Alors aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement du service de la mobilité en lien avec l'immobilier, mais on voit bien que le secteur de l'immobilier, alors on pourrait voir dans son acception que le mot immobilier contient le mot immobile, ben finalement l'immobilier n'est plus du tout immobile. L'immobilier devient agile, l'immobilier est en train de s'ouvrir, et notamment face à différents enjeux, ben ceux de la RSE hein, que Jean-Christophe évoquait, qui nous amène à réfléchir différemment sur la mutualisation des espaces, sur les performances énergétiques, etc. de nos immeubles. Et puis grâce, en tout cas aux outils, que sont les outils technologiques, on commence à capter de l'information, à pouvoir donner des accès différents. Enfin, et globalement, ça pose la question de l'accès à la ressource locale. Et quand je dis ressource locale, l'espace est une ressource. La donnée est une ressource, l'énergie est une ressource, et notamment l'énergie des véhicules peut-être une ressource. Et donc c'est tout ça, à mon avis, qu'il va falloir adresser. C'est comment je tire parti des ressources locales pour apporter de nouvelles valeurs au sens environnemental, au sens serviciel, pour tous ces nouveaux usages.
Merci effectivement de bien parler dans le micro. Jean Coldéfi, je le disais, vous êtes directeur du programme Mobilité 3.0. Quels sont les termes du débat, selon vous, justement ?
Si vous voulez, on a dans nos villes, alors, sachant qu'une ville, c'est quand même bien plus que le centre-ville, c'est la première couronne, la deuxième couronne, c'est tout ce qui, toute l'attractivité, l'attraction d'une ville. On a un débat entre les individus, vous et moi, et on a une ressource rare, nous, c'est le temps. Voilà. Pascal le disait très bien, il n'y a rien de plus difficile à un homme que de rester assis sur sa chaise sans rien faire. Et les jeunes disent YOLO.
Oui, j'ai de la chance de vous avoir 45 minutes. Là.
Exactement, vous voyez, c'est d'ailleurs, 45 minutes. Et donc pour eux, c'est la ressource rare, c'est le temps, et donc ils vont vouloir privilégier la vitesse. Pour ça. Et pour la ville, le vrai sujet, la ressource rare, c'est l'espace, notamment en centre-ville. Et une ville, c'est le lieu de la rencontre et ça permet à des tas de gens de se rencontrer. Ça vous permet d'accéder à des commerces en nombre important, à des emplois, à des loisirs. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'effet d'agglomération. Et le pendant de l'effet d'agglomération, c'est la congestion. Et donc la ville, elle va être extrêmement soucieuse au fait qu'il va falloir déplacer les gens en économisant cette ressource rare qu'est l'espace. C'est pour ça qu'il y a des transports publics dans les villes et qu'il n'y en a pas dans les campagnes.
Je vous passe la parole, effectivement, puisque quand on parle de ces sujets, je veux dire, ça ne concerne pas quelque chose d'un débat intellectuel, juste dans la ville, des notions abstraites. Il y a, dans notre vie quotidienne, il y a des couples qui choisissent leur travail en fonction de l'adresse, de la proximité de leur logement. On voit des couples qui cherchent à poursuivre des carrières importantes. Et donc, les deux ont des contraintes de mobilité. Vous avez étudié ça dans vos recherches. Qu'est-ce que ça donne, ce rapport, ce choix de la mobilité, même au quotidien? Je crois même dans les couples, je vous entendais, vous avez des chiffres intéressants à partager avec nous.
Sur ces questions, en effet, de mobilité, toujours dans une logique de mobilité que je nomme constellaire, c'est-à-dire le fait que les choix de mobilité ne sont pas individuels, mais ils se font au sein d'un groupe de personnes, des proches, plus ou moins proches, personnes de votre famille, vos amis, vos collègues, toutes ces personnes influentes de près ou de loin les choix de mobilité qu'on fait au quotidien et aussi les choix de vie, les choix de ce qu'on nomme cycle de vie et notamment en effet quand on fonde un couple, une famille, on aura des contraintes qui s'additionnent ou des désirs aussi qui s'additionnent. Et donc, pour le coup, les choix des couples sont très différents. On a fait, en effet, il y a quelques années, à l'EPFL, nous avons participé à une très grosse enquête européenne sur le sujet des hypermobilités vie de famille. Et on avait, entre autres, constaté qu'il y avait plusieurs types de choix. Certains couples privilégiaient privilégiaient, on va dire, ce qu'on appelle la in-betweenness, le fait d'habiter entre deux grands pôles d'emploi. Et donc, ils divisaient, entre guillemets, moitié-moitié la distance. D'autres privilégiaient un membre du couple, s'occupait plutôt des dynamiques de proximité, de gérer des enfants, de gérer des parents âgés, de gérer l'intendance, les courses, la logistique, des choses comme ça. L'autre couple faisait, lui, portait tout l'effort sur la mobilité en faisant des distances plus longues, en ayant peut-être un appart ou une maison secondaire du côté où était son emploi du coup plus distant. Et d'autres couples font évidemment plutôt le choix de rester les deux en proximité autant que possible, ce qui pour le coup peut impliquer que l'un ou l'autre va renoncer à des hypothèses de travail ou à des promotions pour plutôt rester ancré dans une proximité relative. Et on peut aussi avoir des couples qui vraiment... tous les deux sont tiraillés vraiment par toutes ces mobilités et qui parfois délèguent par exemple à des nounous. On a des couples où les deux sont très hypermobiles et finalement c'est d'autres personnes qui assument un membre de la famille, d'autres personnes. Donc on voit qu'il y a vraiment beaucoup de modèles. Je pense qu'il n'y a pas un modèle exclusif. Ce qui va être intéressant, c'est de voir à quel point la mobilité est toujours une variable d'ajustement et aussi à quel point ces tiraillements mobilitaires ou ces partis pris peuvent quand même induire par moments des tensions qui peuvent aller, y compris compris au bout de quelques années jusqu'au divorce ou à la séparation, hein, ou à d'autres arrangements, mais qui se résolvent aussi beaucoup, j'attire votre attention, justement sur des choix résidentiels. Parfois des choix de multi-résidentialité qui peuvent un peu calmer le jeu ou au contraire donner lieu aussi à, je dirais, à quand même plus d'investissements, plus de coûts. Enfin, c'est une question qui n'est pas simple à régler, mais qui aujourd'hui se règle, je dirais, quand même de beaucoup plus de manières que par le passé. Les gens apprennent à intégrer cette on va dire, hypermobilité avec ces différents choix et aussi testent beaucoup de choses. Vont, par exemple, tester pendant que les enfants sont petits certaines solutions. Quand les enfants grandissent, sont plus autonomes, vont tester d'autres solutions. Et on voit aussi chez les entreprises plus de, on va dire, un peu plus de liberté donnée aux employés, et notamment aux employés qu'on veut garder, un peu plus de souplesse sur la question des arrangements. Et on voit aussi, ce que je trouve moi très intéressant aujourd'hui, notamment avec les évolutions liées au télétravail post-Covid, c'est une remise en question quand même du modèle 5-2, hein, du modèle 5 jours travaillés versus week-end de 2 jours. On voit qu'on rentre maintenant dans des possibilités de modèle 4-3, voire 3-4, voire des modèles 10-20, enfin des modèles autres qui sont basés sur la dizaine, la quinzaine, le mois, d'autres types d'arrangements qui du coup permettent des multirésidentialités plus qu'avant. Et bien entendu, tout ça ne concerne évidemment aussi que des populations qui peuvent et qui ont l'argent et qui ont les capacités aussi, je dirais, cognitives, mobilitaires. Hein. Ça implique aussi des portefeuilles plus, on va dire, plus riches dans les choix qu'on a. Mais en tout cas, des choix existent et ce que moi je retiens surtout, c'est la grande variabilité de ces choix qui contiennent plusieurs variables d'ajustement qui ne sont pas, contrairement à ce qui était le cas il y a quelques années, que la mobilité. Et aujourd'hui, plus de choix résidentiels existent, notamment avec le développement de co-living, le développement de résidences de tout type. Quand je dis secondaire, je laisse vraiment la porte ouverte parce que parfois, la résidence secondaire devient finalement la résidence du travail. On voit vraiment beaucoup de modèles.
Merci Sonia Lavadino. Je me tourne vers vous, Jean Coldéfi, parce que je trouve ça vraiment intéressant quand vous dites rappelez-vous, sachez qu'en 1900, nous parcourions 4 km par jour et aujourd'hui, on en est à 40 km par jour avec toujours une heure de déplacement quotidien. Donc la ville telle qu'on la voit maintenant et vers quoi elle tend, l'équilibre au sein de la ville, il tourne vers quoi? Vers la vitesse, vers la densité? Comment les termes s'ajustent aujourd'hui?
Si vous voulez, pour comprendre la mobilité, c'est certes des flux, c'est des localisations, comme l'a dit Sonia Lavalino, et c'est les programmes d'activité. C'est ça qui est important, c'est les programmes d'activité. Et ce qui caractérise une ville, c'est l'intensification de ces programmes d'activité du fait d'une multitude de choix qui vous est offerte. La différence avec un village aussi, c'est qu'un village, tout le monde se connaît. Et vous êtes dans des schémas, rappelez-vous, dans les années 40, on était dans des schémas qui étaient quand même tout tracés, beaucoup plus, j'allais dire... Je ne suis pas l'ancien régime, mais voilà, les voies étaient quand même extrêmement moins ouvertes que ce qu'elles sont aujourd'hui. Et la grosse différence entre aujourd'hui et 1900, c'est qu'on a multiplié notre revenu par 10.
On a multiplié.
Donc l'effet revenu fait que quand vous sortez de la survie, ce qui compte, c'est le temps, tout simplement. Et on intensifie nos programmes d'activité. Donc il y a une préférence individuelle pour la vitesse qui est structurelle, qui est évidente et qui doit être régulée dans des zones denses pour les questions tout simplement d'occupation de l'espace public. Et après, on pourrait parler aussi effectivement pour certains modes parce qu'ils émettent plus de CO2, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle la tragédie des communs. L'espace public, s'il n'est pas régulé, eh ben, il se passe n'importe quoi. C'est des villes thrombosées. Voilà, c'est pour ça qu'on a 1,5 million de voyageurs dans le RER à Paris entre l'Est et l'Ouest et qu'on ne pourra jamais faire ça ni à pied, ni en vélo, ni en trottinette parce que physiquement, c'est impossible.
Et cette course à la vitesse, elle a des limites. Hein. J'aimerais évoquer le projet Hyperloop au départ d'Elon Musk, un transport à 1000 km par heure dans un tube sous vide. Voilà, pour les gens qui veulent arriver très vite avant d'être partis. Et vous vous dites, eh ben non, c'est pas la bonne solution.
Si vous voulez, depuis 20 ans, on fait 40 km par jour par habitant et ça ne bouge plus. Donc on a atteint un palier de vitesse. Donc c'est dans ce contexte de l'optimisation de notre temps, de remplir nos programmes d'activité, qu'un projet comme Hyperloop arrive avec cette promesse folle qui est de dire, eh ben voilà, je vais vous faire faire Paris-Orléans en 10 minutes au lieu de 45. Sauf que Une fois de plus, donc c'est la préférence pour la vitesse pour l'individu. Sauf que, comme c'est un tube sous vide, compte tenu des distances de sécurité, vous aurez 4 navettes par heure, le trajet faisant 10 minutes, avec les temps de montée et descente. C'est-à-dire que vous aurez 200 personnes par heure. Un train en fait 6000. Donc, à l'évidence, pour une ville, la priorité, ce n'est pas la vitesse, c'est le débit. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'un projet comme Hyperloop n'a, je pense, aucun avenir. La deuxième raison, c'est que c'est un projet pour quelques happy few, parce que la vitesse a un coût énorme. Rappelez-vous que le Concorde, c'était 3000 euros de l'heure, 300 fois le SMIC.
Bon, c'est vrai que dans le tourisme spatial, on a vu avec Elon Musk qui peut donner des billets très chers, et mais qui trouve preneur.
Voilà. Alors, je voudrais juste compléter. On a un mouvement de, j'allais dire, de balanciers aujourd'hui. Voilà, c'est le débat sur les 30 km/h dans la ville. Et si vous voulez, c'est le même débat que la ville du quart d'heure. La ville du quart d'heure, c'est pour les déplacements, on va dire, de proximité, faire ses courses, aller à l'école, aller dans une pharmacie, voir un cinéma, etc. Là, il faut favoriser la proximité physique et donc les modes actifs, c'est-à-dire la marche et le vélo. Mais ce qui a fondamentalement changé depuis 1945, c'est qu'on n'habite plus à proximité de son travail, pour des tas de raisons, parce que les deux travaillent, parce que les emplois sont concentrés, parce qu'on change beaucoup plus souvent d'emploi. Et donc, ce qui reste vraiment inventé, c'est la métropole de la demi-heure, si vous voulez. La ville du quart d'heure, c'est la ville du Moyen-Âge. Ça fait des siècles qu'elle existe. La métropole des 30 minutes, autrement qu'en voiture, en économisant l'espace public, elle reste à inventer. Et ça supposera des réformes assez substantielles sur la manière dont on gère l'urbanisme et le logement. Et le logement, et également la mobilité. Il faudra des transports en commun rapides pour le domicile-travail.
La ville du quart d'heure, je ne sais pas si vous voulez intervenir, vous deux, parce que l'idée a fait florès, et puis ça commence à être critiqué aussi.
Comme vous le dites, il y a une évidence sur la ville du quart d'heure. On voit bien que dans des choses qu'on fait au quotidien, qu'on fait en famille, que font des gens de tous âges, il y a une évidence à vouloir trouver à proximité ces services-là. La question qui est posée, c'est et le reste. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout trouver sur place. Donc, comment on trouve le reste avec, si je caricature, deux schémas un peu caricaturaux liés au mode de transport. Il y en a un qui consiste à dire... Je peux me déplacer plus loin avec des transports plus rapides, mais on voit qu'ils se heurtent à une limite. Les gens se mettent à avoir une heure de transport et ça devient bien long. Une autre caricature, on ne sait pas quelle place elle prendra, c'est que le nouveau mode de transport, c'est le virtuel. Et que ce nouveau mode de transport peut éventuellement permettre de faire du débit et de la très grande vitesse. Mais pour qui ? Qui peut y avoir accès ? Donc on voit bien qu'il y a une tension aujourd'hui qui est en train de se faire, en train de se dire le quart d'heure pour les services du quotidien, c'est quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait pour le travail ? Et puis une autre question qui se pose, c'est qu'on s'aperçoit que autant quand vous êtes en ville dense, vous prenez les transports en commun, vous avez l'habitude de le faire, autant dans certains endroits, si vous prenez déjà votre voiture pour aller travailler, vous allez peut-être avoir tendance à la prendre aussi pour les transports du quotidien. Donc comment on peut organiser ce truc avec ces deux choses ?
Sabine Desnoy, est-ce que ça vous inspire, la ville du quart d'heure chez Jessina ? C'est une idée à laquelle on travaille ?
En fait, ce qui m'inspire quand on parlait de la ville du quart d'heure et notamment de la vitesse, en fait, de mettre la vitesse au cœur de la réflexion, je me dis, je ne sais pas si c'est tant la vitesse que l'instantanéité, parce qu'on a eu des habitudes de consommation instantanées. Et à mon sens, ce qui est également en train de monter en parallèle de tout ça, c'est le besoin de travailler le sujet du coût. Parce que malgré tout, pour bénéficier de cette vitesse ou de cette instantanéité, c'est à quel coût ? Et puis, dans le développement de nos vies, à la fois on a envie que tout aille plus vite, et à la fois on est en quête d'un mieux vivre, d'une augmentation du confort. Et donc, ça, du coup, ça a aussi des impacts, je trouve, sur les offres immobilière, c'est-à-dire que ça va développer, enfin, les sujets de mobilité partagée, par exemple, parce que ça va avoir un impact économique, des mobilités douces de plus en plus. Enfin, on le voit là, tout à chacun, les trottinettes, les vélos électriques, etc. Donc, ça veut dire que nous, les acteurs de l'immobilier, on doit aussi s'organiser pour accueillir ces nouveaux objets de mobilité, tout simplement, pour les stationner. Pour les recharger, pour les réparer. Enfin, donc il y a tout ça qui doit s'organiser. Et puis il y a aussi cette dimension, à mon sens, économique. Alors économique, on peut l'évoquer à travers les mobilités partagées. Alors d'ailleurs, moi, dans une vie antérieure, quand je travaillais pour un promoteur, c'était une expérience qu'on avait mise en place et qui avait eu un certain succès, qui consistait à dire, écoutez, on va proposer, on va négocier avec la collectivité locale de construire moins de parkings, parce que c'est ce qui coûte plus cher, en fait, aujourd'hui, la construction de parking, et c'est ce qui est le plus nocif, même d'un point de vue environnemental, finalement. On va construire moins de parking. Par contre, on va proposer un service de mobilité partagée aux acquéreurs des logements que nous vendons. Et donc, l'impact était multiple, c'est-à-dire que, de fait, de construire moins de parking, le logement était moins cher à l'acquisition, parce qu'effectivement, c'est ce qui coûte le plus cher. Et en plus, vous bénéficiez d'un service de mobilité des véhicules en autopartage, et donc vous n'avez pas besoin d'avoir vous-même, de vous porter acquéreur d'un véhicule. Voilà. Et donc c'est là, à mon avis, on peut lier très fortement ces sujets d'immobilier, de mobilité et d'économie.
Effectivement, dans un autre épisode de cette série, on parle des dessous des villes avec l'utilisation possible énormément d'applications pour les parkings du futur, avec effectivement des espaces aménagés, réinventés. Vous vouliez ajouter quelque chose ?
Et je vois, nous sommes extrêmement sollicités pour être, comme nous sommes propriétaires de patrimoine immobilier, pour être les nouveaux hubs de mobilité, pour être les nouvelles stations-service, mais pour accueillir plutôt des véhicules à mobilité électrique. Donc on voit bien qu'on va demander effectivement des nouvelles destinations à ces espaces en ville. Et de les ouvrir aussi.
Oui. Sonia Lavellino, on parle de chrono-urbanisme, chronotopie, topophilie. Vous qui êtes une chercheuse, voilà, j'aimerais avoir votre regard sur cette notion de la ville du quart d'heure, parce que cette idée de ce que j'en ai compris, c'est qu'un lieu, il change dans ses usages selon l'heure de la journée, de sa polyvalence. Et enfin, ce qui fait que vous êtes fier d'un lieu, que vous le respectez. Donc, lorsqu'on porte un lieu en soi, on en prend davantage soin, tout comme l'on prend davantage soin des autres. Donc on parle beaucoup en ce moment de prendre soin de la planète, mais prendre soin de la ville aussi, ça passe par un nouvel équilibre entre, on le disait, voilà, l'espace et le temps.
Oui, je crois qu'il y a en effet dans les dynamiques de proximité au sens large du terme, et pour moi ça va bien au-delà du quart d'heure. Ce qui moi m'importe plus, c'est quelles sont la mise en élasticité qu'on peut avoir, que ce soit de la marche ou du vélo, du corps en mouvement au sens large du terme. La question en effet aussi des aides électriques qu'on peut avoir avec toutes sortes d'outillages de ce que j'appelle des habits de vitesse, mais qui peuvent être vraiment de la trottinette, solo wheel, à des choses beaucoup plus, on va dire, équipées et en espace qu'elles occupent et en vitesse qu'elles proposent. Le vélo électrique est un bon exemple, puisqu'il va tout à fait à 45 à l'heure, ce qui est quand même presque le 50 à l'heure admis dans les villes. Donc, avec d'ailleurs quelque chose qui ne serait pas forcément souhaitable. J'entends qu'un crash à 45 à l'heure à vélo, vous êtes sacrément mort. Donc ce n'est pas forcément quelque chose que je cherche, bien que j'aie moi-même un vélo électrique. Je ne cherche pas forcément à aller au maximum de la vitesse. Et ça me permet de rebondir peut-être sur des nouveaux choix qu'on va apparaître. Si je prends le cas par exemple du train Genève-Lausanne, qui existe en plusieurs versions, version très rapide, 31 minutes, version moyennement rapide, 42 minutes, version plutôt RER tortillard qui s'arrête 55 minutes. On voit beaucoup de gens qui choisissent le 42 minutes ou le 55 minutes plutôt que le 31 minutes parce qu'il y a plus de confort, parce qu'on a plus de place assise, parce qu'on peut mieux faire des réunions, parce qu'on peut mieux lire, parce qu'on peut mieux travailler, parce qu'on peut mieux téléphoner. Donc en fait, on voit sur la question de la texture du trajet et la question du temps plein, est-ce que oui ou non, le temps de trajet sert à alimenter le temps de nos vies? C'est là que ces choix peuvent être plusieurs types de choix, peuvent être d'ancrer plus dans la proximité, avoir en effet globalement moins de choix liés au déplacement, mais ça peut être aussi de décider qu'on va en effet dédier une heure, deux heures par jour à nos déplacements, mais que ce sera des déplacements de plus de qualité, de plus de liens avec la nature, de plus de liens avec nos enfants, prendre plus le temps. C'est aussi des choses qu'on voit, et je pense qu'on n'est pas forcément toujours obligé. D'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui, et notamment dans les nouvelles générations, qui refusent catégoriquement le choix de la vitesse. Ce n'est pas leur choix. Ils aimeraient vraiment ralentir, ils aimeraient vraiment faire autrement. Il y a d'autres personnes, au contraire, qui sont toujours dans une logique d'accélérer. Et donc, ça, je pense que là-dessus, il faut rester relativement, je dirais, démocratique, tout en ayant quand même conscience que par rapport au coût, et je rebondis sur ce que vous dites, le coût de la vitesse, au sens global du terme, le coût de l'accélération dans nos sociétés est quand même un énorme coût, avec beaucoup de coûts cachés. On vient là de publier, ce ne sont pas des recherches de l'EPFL, mais l'université de Bâle et l'université l'ETHZ, d'autres universités suisses viennent de publier une très grosse recherche menée en expérientiel, hein, avec trois groupes pour travailler sur les coûts cachés de la mobilité. Un groupe était sensibilisé aux coûts cachés et était incité avec des incitations financières à diminuer des choix de mobilité qui étaient justement, disons, qui généraient beaucoup de coûts cachés. Un autre groupe était seulement informé des coûts cachés et un autre groupe n'avait aucune information. Et on voit qu'au niveau des changements de comportement, ceux qui avaient été vraiment sensibilisés aux coûts cachés et qui avaient été incités à changer leur comportement financièrement, dès qu'il s'agissait de mieux intégrer tous ces coûts, que ce soit des coûts écologiques, des coûts de la santé, des coûts de la pollution, dans ces choix de mobilité, bah, changeaient assez radicalement, finalement, de comportement. Et donc, c'est intéressant d'en effet réfléchir de façon un peu plus globale aux coûts que cela peut avoir, y compris les coûts que ça engendre sur la famille, sur le relationnel et sur la relation à nous-mêmes, je dirais, au final, hein.
J'aimerais parler également de la tendance à la baisse de la vitesse. On voit des limitations de vitesse. Jean Coldefy, est-ce que vous voulez intervenir là-dessus ?
Juste, moi je ne pense pas qu'on accélère. C'est-à-dire, on a accéléré, mais je vous le dis, depuis 20 ans, on fait 40 km par habitant par jour et c'est extraordinairement stable et on constate ça dans pas mal de pays. En fait, on a accéléré et aujourd'hui, le seul kilométrage qui augmente, c'est l'avion longue distance. Où là, effectivement, on en consomme beaucoup plus. C'est lié à la baisse du coût de l'avion avec les low cost. Donc, on y a, une fois de plus, un effet revenu. Je voulais quand même revenir, en fait, sur quand même quelques points importants. Ce qu'on appelle une aire urbaine, si vous voulez, c'est l'ensemble des communes dont au moins 40% des actifs travaillent dans le pôle central. Et en fait, c'est ce que, moi, j'appelle ça un bassin de vie. Le bassin de vie, c'est là où vous faites vos déplacements résidentiels. Et c'est là où vous allez travailler. Et en fait, le bassin de vie en termes de travail, ce n'est pas la ville du quart d'heure, c'est beaucoup plus long que ça. Et les transports en commun aujourd'hui, l'offre de transport en commun se positionne dans le centre-ville. C'est dans une aire urbaine, donc dans un bassin de vie. Centre-ville, c'est un quart des habitants. Vous en avez un autre quart qui est en première couronne et l'autre moitié qui est dans le périurbain. Et très concrètement, on a en France un problème majeur, c'est que notre système de transport en commun et en particulier de TER n'a absolument pas accompagné le développement de la ville. Et je vais l'illustrer de manière très simple. On a à peu près un quart des actifs aujourd'hui qui travaillent dans la ville-centre sans y habiter. Sur Lyon, ça fait 220 000 personnes. J'ai 35 000 places dans les TER. Donc si vous voulez, ce n'est pas une question de comportement, c'est simplement une question d'offre. On a une offre en transport en commun, mais qui est incroyablement faible. Je vais le dire autrement, en Ile-de-France, on a 3 millions de véhicules en circulation tous les jours, très peu de Parisiens, parce qu'ils ont évidemment une station de métro tous les 300 mètres, donc comme vous n'êtes pas idiot, eh ben, vous prenez le mode qui est le plus pratique, et c'est évidemment les transports en commun. Et il y a 3 millions de voitures en circulation, 30 000 places de parc relais. Donc, vous voyez les échelles, on a un retard incroyable. Et donc le Grand Paris Express, il arrive 20 ans trop tard. Si vous voulez, et ça c'est un point important. Et pour faire le lien quand même sur notre thématique avec la politique du logement, ce qui peut arriver avec le transport en commun, c'est une explosion des coûts du logement, une gentrification, et donc ça suppose quand même d'accompagner cette politique de transport en commun par une politique de logement pour tous, donc pas uniquement pour des gens qui peuvent se reloger ou les deux travaillent, ou des logements très sociaux, il faut aussi des logements pour les classes moyennes. Et donc ça suppose des actions quand même publiques en lien avec de la promotion immobilière pour proposer des logements à des prix acceptables. Voilà. Ce qu'on constate aussi, c'est que dans les centres-villes en France, il y a de moins en moins de familles. Vous avez des enfants, à Paris c'est juste impossible, sauf avoir des très hauts revenus, donc vous partez. On a eu une époque, si vous voulez, où ce que Jacques Lévy décrit très bien dans ses ouvrages, où dans les années 70, fin des années 70-80, où des gens partaient par choix pour profiter des avantages de la campagne et de la ville. Le système de contraintes aujourd'hui est beaucoup plus fort et vous faites des arbitrages entre temps de transport et coût de l'immobilier et cahier des charges résidentielles qui vous convient. On a un problème majeur de déficience de transport en commun pour le domicile-travail en France. C'est ça le vrai sujet, en fait.
Jean-Christophe Vizier, je vous vois prendre des notes, vous qui pilotez déjà ce groupe de travail. Ça vous donne des idées pour la prochaine réunion du groupe de travail ou est-ce que vous voulez rebondir ?
Oui, forcément. On est bien dans ce... J'aime bien ces deux idées, cette idée de déficit.
Tu peux vous rapprocher du micro, s'il vous plaît.
Cette idée de déficit du transport en commun et cette question sur qu'est-ce qu'on fait sur le logement et ce qu'on bâtit. On voit bien qu'autour du Grand Paris, un certain nombre de gens disent on n'y croit pas parce qu'on habitait à côté de l'endroit où il va y avoir une gare, mais on va être exclu de cet endroit. Et donc ce défi-là de liaison bâtiment-immobilier, de comment faire si je crée du transport en commun pour que ce soit vraiment pour tout le monde et pas pour un petit nombre.
Oui. Si vous regardez des villes comme... Il y a une composante aménagement, une composante urbanisme. Donc très concrètement, il faudrait aménager, ouvrir l'urbanisation autour de pôles majeurs de transport en commun. Et après, on ne va pas refaire l'histoire. La ville, elle est comme elle est en France. Donc, mais ça, c'est pour le futur. Il faudrait le faire. Et il faut également une politique du logement. Vous regardez ce qu'a fait Stockholm après la guerre. Stockholm, ils ont construit, ou Copenhague, ils ont construit leur urbanisme autour des pôles de transport en commun. Et ils ont acquis du foncier en masse. Je crois que 80% du logement qui s'est construit à Stockholm après la guerre, jusqu'en années 70, s'est fait sous maîtrise d'ouvrage quasi publique, ou en tout cas délégué, mais avec une maîtrise foncière publique, pour offrir des logements à tout le monde. Ça a été anticipé. Voilà. Est-ce qu'on l'a fait en France ? J'en ai quelques doutes. Mais ça rejoint des problèmes de gouvernance que vous aborderez. Je pense que les maires ont une énorme responsabilité dans la situation à laquelle on se trouve aujourd'hui.
Ce qui me frappe également, c'est qu'on constate qu'à proximité des transports en commun, assez rapidement, on a tendance à avoir une dédensification de la ville. Dédensification, pas forcément du tout parce que le bâti serait démoli, mais parce que le nombre d'habitants dans les logements baisse. J'ai vu des chiffres sur Lyon où on voyait que sur le centre, on a tendance à avoir une baisse du nombre de personnes dans les logements en proximité.
Oui, à cause du coût. Les familles partent.
Les familles partent et les riches partent. Et ceux qui ont les moyens peuvent rester là. Et je me demande si on n'a pas un enjeu. On parle beaucoup de construction pour résoudre ces problèmes-là, mais dans les politiques du logement, de politiques visant à favoriser la densification dans les bâtiments existants. Notamment, nos systèmes fiscaux vont pas du tout dans ce sens-là. Ne poussent pas à la rotation qui ferait qu'on aurait une densité. Parce que sur celle-là, on peut peut-être agir plus vite que sur celle qui consiste à construire. C'est-à-dire une densification qui consiste à travailler non pas sur la morphologie de la ville, mais sur son métabolisme, c'est-à-dire sur le fait de mieux utiliser les bâtiments qui sont là et qui existent.
Alors, je vois que le ping-pong continue, mais j'introduis dans le ping-pong à nouveau Sabine Desnaux. On a dit beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous pourriez nous dire le Grand Paris Express, comment Jessina, par rapport à ces sujets, réfléchit sur la question. Et sinon, j'ai un autre thème, c'est que vous parliez de coûts tout à l'heure. Sabine Desnaux, elle nous a parlé de revenus. Et quand on parle de réutilisation possible, nouvelles applications sur les parkings, vous me parliez, tiens, par rapport au prochain véhicule électrique, il va y avoir en termes d'énergie des collaborations nouvelles au sein d'un même immeuble et cela va aller vers des compléments de revenus. Vous expliquez ça plus clairement que moi. Est-ce que vous voulez bien le faire, s'il vous plaît?
Alors je vais le faire, mais je voudrais juste réagir un tout petit peu sur ce qui vient de se dire précédemment et après je reviens précisément sur ce point. Je ne vais pas revenir spécifiquement sur la politique du logement parce que je pense qu'il existe déjà beaucoup de choses en France et que ce n'est pas le débat là, mais pour avoir été aussi une ancienne élue locale, je sais à quel point en fait, ces sujets sont pris en considération par les élus avec la loi SRU aussi, etc. Enfin, y a quand même beaucoup de choses qui existent en France. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se poser la question de ce que sera la mobilité dans 10 ans. Parce qu'on réfléchit avec la mobilité actuelle. Ce que sera la mobilité dans 10 ans, on nous parle beaucoup de l'arrivée des véhicules autonomes, des navettes autonomes, qui pourront peut-être être une réponse à des sujets aussi de transport en commun qui seront un peu différents, peut-être aussi plus agiles. Et un autre point que je souhaite apporter au débat, c'est qu'on parle beaucoup de la mobilité des personnes, mais on a un vrai sujet qui est celui de la mobilité des marchandises également. Et parfois, ce sont les marchandises qui se déplacent et non plus les personnes pour y avoir accès. Et que ça a des impacts, que ce soit d'un point de vue écologique, que ce soit sur le développement des territoires, l'attractivité aussi de certains territoires, parce que ça, parfois ça peut avoir un impact sur la dynamisation ou la non-dynamisation d'un certain nombre de centres. Centre-ville, enfin voilà, donc tout ça montre que l'équation en réalité est assez complexe. Alors pour revenir peut-être sur le point sur lequel vous m'avez
interpellé. Oui, parce qu'on parle également d'éléments financiers aussi, ça compte.
Vous m'avez interpellé, alors là on a beaucoup parlé d'usage hein, jusqu'à présent, mais on a aussi des sujets un peu plus techniques, hein, je pense, dans les collaborations qu'il peut y avoir entre le secteur de l'immobilier, le secteur de la mobilité et celui de l'énergie. Donc je pense que le combo n'est pas que deux secteurs, mais bien de trois secteurs. et notamment avec cette idée que, avec l'émergence des véhicules électriques, le secteur de l'immobilier a dû équiper ses immeubles de bornes de recharge pour véhicules électriques. Donc jusque-là, tout va bien. À travailler après, même à les mettre en commun, à les partager, etc. Et ce qui est en train d'arriver, il y a un certain nombre d'expériences qui existent déjà dans certains pays, et ce sera probablement le sens de l'histoire, c'est que les acteurs de l'immobilier étant en quête de performance énergétique très forte et de pouvoir aussi écréter des demandes d'énergie qu'il va y avoir, je ne sais pas, le soir quand on rentre chez nous à 20h, l'un qui allume son four, l'autre qui prend sa douche, l'autre qui met la télévision, etc. Voilà, on a une pointe de consommation, on a un pic. Il s'agit d'écréter. Donc plutôt que d'aller relancer une centrale quelque part, on peut considérer que la batterie qui est dans les véhicules peut devenir une batterie mobile en réalité et vient une source de stockage d'énergie qui pourra venir écréter cette demande. Donc c'est ce qu'on appelle le V2G, c'est-à-dire c'est le véhicule to grid, c'est-à-dire que c'est le véhicule qui vient alimenter le réseau électrique général. Et donc c'est assez intéressant, déjà parce que c'est-à-dire qu'on est bien dans ces logiques de recherche de ressources locales dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on regarde un peu partout sur le territoire comment on peut tirer parti de toutes ces ressources, c'est-à-dire que l'acteur de l'immobilier doit s'organiser pour produire, stocker, aller chercher de l'énergie un peu partout, donc on est sur des logiques un peu différentes. Et alors pour le coup, si on revient sur des sujets d'économie et d'usage, ce qui est intéressant pour le propriétaire du véhicule électrique, c'est que ça peut être une source de rémunération. Pourquoi ? Parce que s'il s'engage à dire, je sais n'importe quoi, de 20h à 2h du matin, je me mets d'astreinte, je vous laisse mon véhicule, je n'y toucherai pas, vous pourrez venir tirer de l'énergie dessus, il peut être rémunéré pour ça. Il peut même avoir une deuxième rémunération si, en effet, on vient tirer l'énergie sur sa batterie. Et on a vu dans les expériences menées dans quelques pays, ça peut aller parfois jusqu'à 1 500 € par an de revenus supplémentaires. Donc on va rentrer de plus en plus probablement dans des, ce que j'appelle un peu des micro-revenus, mais qui sont des sommes de petits revenus qui peuvent aussi faciliter le quotidien et qui rentrent bien dans ces logiques à la fois de mutualisation des ressources et de performance énergétique globale.
Jean-Colivier, je vois que vous voulez réagir, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu Sonia Lavagnino. Est-ce que ces réflexions, vous les soutenez ? Ça fait partie des vecteurs intéressants pour le futur ?
En Suisse, on fait beaucoup d'expérimentations sur les quartiers sans voiture. On diminue en effet énormément le besoin de places de parc et on expérimente pour faire en sorte que dans les contrats de bail, les gens puissent en effet renoncer volontairement à la voiture et contre abattement des loyers ou des remboursements. Je pense que c'est des pistes qui sont très intéressantes. Et pour nous, les plus intéressantes sont celles qui sont menées dans les couronnes, en deuxième couronne, y compris parfois même dans des ville beaucoup plus petite. Ça, c'est un peu nouveau. Et je pense que quand on a en effet une structuration, je reviens sur ce qui a été dit par mon collègue. C'est important qu'on ait des bonnes structurations, non seulement de transport public, mais aussi sur les modes actifs, marche et vélo, et que les systèmes globaux de rabattement, de multimodalité soient bien mis en place à toutes les échelles territoriales, et que ce n'est pas parce qu'on est dans des petits villages ou des villes plus petites. Nous, en tout cas, en Suisse, on a vraiment une logique d'intégration très forte de nos interlandes à nos réseaux de villes moyennes et ensuite aux grandes agglomérations. Mais c'est vrai qu'on a fait des choix territoriaux, au développement territorial différent, notamment le choix de ne pas développer la métropolisation. C'est quelque chose contre lequel on s'est battu activement, parce qu'on a plutôt choisi vraiment d'intégrer une politique de réseau de villes et de développement de villes moyennes plutôt. Et ça, ça se voit aussi dans la structuration des transports, et notamment sur la question de l'accès aux rails, y compris dans des régions qui sont plutôt à la campagne. Donc, c'est pas, je pense que ce qu'il faut en effet arriver à découpler, c'est cette que j'appellerais la malédiction des 30 km. C'est-à-dire que quand on est en France, souvent quand on est à 30 km, 40 km d'une ville, on est entre guillemets astreint à la voiture, alors qu'en Suisse, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas parce que vous êtes relativement loin de la ville, entendons-nous aussi sur ce que veut dire loin, qu'on est pour le coup obligé de revenir à la voiture. Et ce n'est pas parce que vous habitez dans des villages de 2000 habitants ou 3000 habitants qu'on est obligé de revenir à la voiture. Une vie sans voiture est vraiment possible à la campagne en Suisse, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Et ça se combine aussi avec des modes partagés. En effet, il y a beaucoup un accès au car sharing, au bike sharing. Il y a aussi aujourd'hui une intégration dans l'abonnement général de transport public de la voiture privée et du vélo électrique privé. Donc ça, c'est des nouveaux modèles aussi qu'on est en train de pousser, qui ont vraiment une logique de mobilité totalement intégrée, mais une mobilité qui est plutôt en mutualisation ou pas, hein, mais complètement intégrée. Je dirais que le couteau suisse des mobilités ne comporte plus voiture d'un côté et puis tous les autres modes alternatifs de l'autre, mais c'est vraiment un ensemble, une offre totalement cohérente qui, pour le coup, permet aussi des choix résidentiels qui sont, on va dire, plus élargis. Et puis, ce n'est pas pour autant qu'on est pénalisé.
Jean-Claude Lefy, je vous vois sourire. Je sens que vous avez quelque chose à ajouter dans la discussion.
Non, mais y a, ce débat est passionnant. Hein. Il y aurait tellement de choses à dire. Non, j'ai été aussi élu local quand je visais sur la construction et l'aménagement. C'est en fait la première couronne, vraiment la première couronne et la deuxième couronne. On a vraiment les maires ont géré des intérêts communaux, des agriculteurs qui étaient bien contents de vendre leur terrain à prix d'or, et puis ensuite, une fois que ça s'est périurbanisé, des gens, une fois qu'ils sont arrivés, ils se sont dit je veux plus que d'autres en profitent, et donc ils ont fermé la porte derrière eux, obligeant l'État, on a rajouté une couche en disant il faut arrêter la périurbanisation, et donc les gens ont été chercher encore plus loin ce qu'ils ne pouvaient pas trouver plus près. Voilà, une agglomération, hein, je le rappelle, vous avez un quart des habitants dans la ville-centre, un tiers, un autre quart en première couronne, et l'autre moitié à l'extérieur. Sur la métropole de Lyon, l'aire urbaine fait 2,4 millions, la métropole en fait 1,4 million. On ne peut pas reloger 1 million de personnes dans l'agglomération, c'est évident. Donc il faut faire avec, et il faudra organiser notre système de transport en commun en conséquence. Juste, deuxième point, sur le véhicule autonome, pour rebondir, on verra. Moi, j'ai toujours été extrêmement sceptique en ville. C'est une question de cas d'usage, si vous voulez. Une expérience qui a été... on en revient à la valeur du temps. C'est ça, la chose. On a simulé un véhicule autonome en Californie de manière extrêmement simple. On a mis une centaine de ménages à disposition, un chauffeur 24-24. Explosion des distances. Ils ont fait x2. Voilà, tout simplement. Et donc, le véhicule autonome, s'il n'est pas partagé, il obligera à des mesures de régulation extrêmement fortes en ville pour éviter l'invasion de la voiture, de l'espace public par la voiture. Donc, véhicule autonome partagé, il a certainement un intérêt, certainement pas en centre-ville où il y a déjà tout ce qu'il faut, mais plutôt effectivement sur des pénétrantes, oui. Sur des pénétrantes et des liens centre-périphérie. Juste pour rebondir, moi, il faut quand même se rendre compte qu'en 1945, les années 50, celui qui avait la voiture, c'était quand même un signe de distinction incroyable. C'était des gens riches. Et cette élévation du pouvoir d'achat, ça a permis une démocratisation de l'accès à la vitesse et donc à un programme d'activité un peu plus important. Je trouve qu'on est dans un débat un peu des années 70. Je croirais revoir L'aventure, c'est l'aventure, où le jeune, le fils de Lino Ventura, et dit à son père que le capitalisme et la bagnole, c'est foutu. C'était dans les années 60, ce film, hein, c'est ça, ou 70. Ouais. C'est assez drôle, je vous invite à revoir cette séquence. Moi, je pense qu'il faut pas basculer dans l'excès. La ville sans voiture me paraît un excès extraordinaire, et je remarque que dans tous les pays d'Europe, y compris la Suisse, la part modale kilométrique de la voiture est proche des 80%, y compris en France. Ça m'a quand même assez surpris. J'ai vu, il n'y a pas de grande différence sur le pattern global de mobilité. Donc, voilà, la voiture, moi j'ai été élu dans une communauté de communes rurales, la voiture, ce n'est pas un problème, hein. C'est une solution, hein. Pour ces territoires-là. C'est absolument pas un problème. On n'a pas d'invasion de l'espace public. On préserve des centres-villages, mais par ailleurs, c'est pas vraiment une difficulté. La question, c'est vraiment dans l'accès à la ville, aujourd'hui, avec la nouvelle configuration des emplois. Et c'est là qu'il faut vraiment agir.
On a cité Lino Ventura. Je sais pas, Christophe Vizier, si vous voulez terminer sur une allusion à Alain Delon ou Jean-Paul Belmondo. Mais en tout cas, dites-nous tout. Votre avis sur la voiture autonome, hein, ça a pas mal d'implications. Comment vous voyez les choses quant à vous ?
Je n'ai aucun avis sur la voiture autonome.
Ah bon, d'accord.
Par contre, pour rebondir sur ce que disait Sabine, sur cette idée de le véhicule, cette voiture qui pourrait être aussi une solution par endroit. Alors, on est d'accord sur le sujet de congestion. Partout où on a un sujet de congestion et où le sujet, c'est la surface, on voit bien la limite de la voiture. C'est génial, la voiture, sauf... je vous rappelle un vieux dessin de Sempé qui montrait l'évolution de la voiture, qui était la distinction du riche et qui devient l'emmerdement pour tout le monde. Et le riche qui change de moyen à ce moment-là. Sur cette voiture comme peut-être un élément de solution en regardant les choses pour ceux qui viennent de loin et qui ont besoin éventuellement de se rapprocher d'endroits où il y a du transport en commun, on voit bien que, et si on se rapproche du système électrique, on voit bien que le système électrique, on a un vrai sujet de stockage. On est en train de passer à du renouvelable, on a un vrai sujet de stockage et on le regarde sans regarder à côté ce qui se passe dans les voitures. Et ce que vous évoquiez tout à l'heure, les voitures électriques, aujourd'hui, on est en train de discuter pour qu'elles aient au moins 400 km d'autonomie. C'est vraiment important d'avoir au moins 400 km. Mais au quotidien, on va faire 40 km avec. Donc, il y a 360 km qui restent en moyenne dans la voiture, inutilisés tous les jours. On les utilisera le week-end, on les utilisera pour les vacances, mais au quotidien, on ne les utilise pas. Si effectivement on réussit à en faire quelque chose sur le système électrique, ça peut avoir du sens pour ne pas faire à la fois des batteries dans les véhicules et ailleurs. Il y a peut-être un gain là à faire entre ces deux choses. La voiture autonome, je n'ai aucun avis.
On a compris. Un mot de conclusion, s'il vous plaît.
Non, mais je pense qu'il y a un vrai sujet de projection, en effet. Hein. Aujourd'hui, je pense que dans un immeuble où il y a 100 logements, il doit peut-être y avoir 3 foyers qui ont un véhicule électrique. Je pense que dans 10 ans, on aura 30, 40 ou 50 foyers qui auront un véhicule électrique. Je ne suis pas du tout sûre qu'on soit prêt, hein, aujourd'hui dans le secteur de l'immobilier à répondre à ça, qu'on ait les puissances installées qui vont bien, que ça réponde
d'ailleurs... Les parkings équipés pour recharger.
Voilà, d'autant qu'aujourd'hui, nos réglementations thermiques font en plus... on nous demande d'aller chercher du chauffage plutôt avec de l'électricité qu'avec du gaz, etc. Donc tout focus sur l'électrique. On risque d'avoir quelques sujets techniques. Peut-être pour conclure et pour rigoler un peu, mais parce que je trouve que le sujet de la prospective est important. Et donc demain, on n'a pas évoqué, mais on aura aussi les drones probablement. Enfin, je ne sais pas la place qu'ils prendront, mais je pense qu'il ne faut pas oublier ce sujet-là. Et nous, en tant qu'acteurs de l'immobilier, s'interroger. Alors pour le transport de marchandises, qui sait peut-être de personne, libérer nos toits aussi, on ne sait jamais. Quoi.
Oui, les GAFAM en parlent beaucoup
pour
le commerce,
parkings,
mais... le transport de biens, c'est vrai. On y vient. Est-ce que je peux vous demander votre mot de conclusion, Sonia Lavadino, s'il vous plaît ?
Pour moi, ce qui me paraît vraiment intéressant, c'est la question de comment on va retrouver l'humain dans tout ça, parce qu'on a beaucoup parlé de technologie. Et la question énergétique, pour moi, elle est très clé, c'est clair. Je pense que ça se résout aussi avec une vraie approche temporelle de, on va dire, de la production et de la consommation énergétique, à la fois des immeubles, des véhicules. Je pense qu'on sera en effet dans un monde qui sera beaucoup plus équilibré de ce point de vue-là. Mais j'imagine que c'est aussi redonner au corps en mouvement sa vraie place, au sens qu'on utilise d'abord, autant que possible, là où on peut, notre propre énergie dans tous les déplacements de proximité, ce qui d'ailleurs aurait des effets bénéfiques immédiats sur la question de la santé. Je pense aussi que sur là-dessus, il y a vraiment un rôle à jouer du point de vue de la récupération qui va être libérée par les véhicules autonomes, par exemple, de places de stationnement en surface. On voit qu'on aura probablement un quart ou un tiers de l'espace dans les villes. Hein. Je ne parle pas forcément de ce qui se passera à la campagne. Ce qui, moi, m'importe le plus derrière tout ça, c'est notamment la question de est-ce qu'on peut, en effet, faire revenir et maintenir des familles en ville. Et ça, ça implique vraiment d'avoir des bâtiments serviciels qui serviraient de locomotive dans les quartiers en même temps qu'on fait de la rénovation urbaine. Je pense que rénovation urbaine et logement neuf doivent beaucoup plus aller main dans la main. Aujourd'hui, on a vraiment une disparité très forte dans ces deux types de programmes, alors même que pour moi, ils devraient être au service l'un de l'autre, au sens que les bâtiments neufs devraient vraiment servir de locomotive au quartier, à la fois servicielle, expérientielle, et devraient notamment offrir beaucoup de services aux familles pour qu'elles reviennent dans des quartiers qui, eux, auraient été rénovés. Je pense que c'est un débat qui malheureusement, est un peu... on va dire, qui se regardent en champ de faïence, alors que pour moi, il y aurait beaucoup plus de complémentarité. Mais en tout cas, le vrai enjeu, c'est ce maintien des familles, je dirais, dans les villes compactes, je vais dire ça au sens large, et je rejoins ce qui a été dit par mon collègue, c'est la question de comment on a de nouveau une maîtrise foncière qui soit sur les lieux stratégiques très, très bien maîtrisée. En effet, des villes comme Copenhague le montrent bien. Aussi, peut-être, des tendances plus coopératives, ou en tout cas, plus de co-construction, co-conception, qui tiennent vraiment plus compte des besoins des gens. Donc vraiment, remettre cet humain au centre, remettre la notion des familles et des cycles de vie au centre de la production de logements me paraîtrait assez adéquat pour finalement réussir à rééquilibrer cette équation mobilitaire et que ce ne soit pas uniquement la mobilité qui soit la variable d'ajustement.
Merci Jean Coldéfi. Et vous, qu'est-ce que vous mettez au centre?
De toute façon, on a commencé cet échange. Je pense que la vraie question, c'est effectivement celle de l'efficacité de notre système, on va dire, urbain dans toutes ses dimensions, et celle de l'équité. L'équité territoriale et sociale. Il faut juste rappeler, voilà, le salaire médian, enfin le revenu disponible des médians des ménages, c'est 2 500 € en France. Donc il faut vraiment l'avoir en tête. On a des familles qui de plus en plus ne peuvent plus habiter en centre-ville. On a un déficit énorme de transport public. Donc on sait ce qu'il faut faire. On sait exactement ce qu'il faut faire. Le diag, il est posé, les écrits, les études s'empilent sur le sujet. C'est vraiment des liens entre périphérie et au sein des premières couronnes, en transport en commun pour économiser de l'espace public et avoir de la vitesse assurée par des transports en commun et non plus par la voiture. On sait ce qu'il faut faire. La question, c'est le financer. Et qui va payer ses coûts? Voilà. Et donc ça pose de vastes questions politiques, de choix de société, mais c'est vraiment des débats qu'il faut porter, je pense, le plus tôt possible. Ça sera à nous de payer ses coûts, ça ne sera pas à d'autres.
C'est vrai que c'est éminemment intéressant. Je remercie mes invités, Jean-Christophe Vizier, Sonia Lavadino, Jean Coldéfi, Sabine Desnaux, parce que vous soulevez plein de questions. On se rend compte que cette équation vers un nouveau rapport entre l'espace et le temps, et en fait, ça s'élargit. Il faut intégrer également l'énergie et puis, bien sûr, la dimension humaine. En tout cas, vous écoutez, ça donne vraiment envie de participer à vos réunions de groupe de travail. C'est vraiment très intéressant. Merci d'être passé par le studio de Web Radio et on se retrouve pour un prochain numéro très bientôt. Merci de votre attention.
L'immobilier, partie prenante de la mobilité renouvelée, une table ronde au service du développement de territoires plus responsables et plus désirables, à retrouver sur Radio Immo et Radio Territoria.